dans le cadre du Festival international des métiers de montagne 2018, je reçois maintenant Lucie Maréchal. Lucie Maréchal, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes bergère dans le Champsaur.
Oui.
Et peut-être pour commencer, vous allez nous expliquer où est ce fameux Champsaur et de quel territoire il s'agit.
Le Champsaur, c'est une vallée qui est contre le parc national des Écrins, un petit peu au nord-est de Gap, en fait. Quand on prend Chambéry-Grenoble, on descend vers Gap et on trouve le Champsaur sur sa gauche en descendant.
D'accord, c'est un territoire de montagne, c'est un grand territoire.
C'est un territoire de montagne parce que déjà la vallée se trouve à peu près 1000-1200 mètres d'altitude. Et il y a des alpages sur quasiment tous les espaces d'altitude, en fait, des troupeaux un peu partout en montagne.
La question qu'on nous a beaucoup posée ici autour du pastoralisme, c'est à qui sont les terres sur lesquelles vous emmenez paître vos bêtes ? Est-ce qu'il faut payer un loyer ? Est-ce qu'il y a une redevance, quelque chose ?
Alors les pâturages généralement sont communaux, mais pas seulement, donc ça appartient à la commune. Il y a aussi certaines parties qui sont gérées par l'ONF, et d'autres parties qui peuvent être privées. Mais pour la grande majorité, c'est du communal. Et effectivement, un pâturage, ça se loue. Donc c'est le propriétaire des bêtes ou les propriétaires des bêtes qui vont payer à la commune. Je crois que dans la vallée du Champsaur, c'est 5 euros par brebis pour l'estive. Et quelqu'un qui viendrait d'un peu plus loin, qui n'est pas habitant de la commune, ce serait 7 euros par brebis pour l'estive, qui dure à peu près 4 mois.
Vous exercez le métier de bergère depuis 15 ans.
Oui.
Qu'est-ce qui vous a amené, qu'est-ce qui vous a motivé dans l'exercice de ce métier ?
Alors moi, ce n'était pas prémédité. En fait, il se trouve que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit qu'il était berger et ça m'a fait tilt.
C'est vrai.
C'était un coup de cœur. C'est plus le métier qui m'a attrapé. Bon, j'avais 22 ans par là. Je pense que ce qui m'a attiré, c'est le côté aventure, la montagne, la proximité des bêtes. Et le côté aventure, ouais.
Est-ce que vous avez, donc depuis 15 ans que vous le faites, vous êtes satisfaite de ce métier ? Vous y trouvez votre compte et votre épanouissement ?
Alors oui et non au bout de 15 ans, parce qu'au niveau du métier, tout ce qu'on peut y apprendre, notamment dans l'approche des animaux, comment guider des bêtes, comment les mener, les nourrir, les soigner, on n'a jamais fait le tour et chaque année j'apprends encore, c'est vraiment passionnant, c'est très enrichissant, c'est même nourrissant. Ceci dit, au bout de 15 ans, la solitude, la vie en montagne, les journées longues, le mauvais temps, la prédation, c'est des choses qui pèsent de plus en plus lourd, sachant que moi je travaille seule, donc c'est quand même un métier qui est très satisfaisant d'une part, mais qui est aussi très très exigeant.
Vous parlez prédation, dans le Champsaur on parle du loup bien sûr.
Oui, donc depuis 7 ou 8 ans, les loups dans le Champsaur, l'alpage où je garde, j'ai de la chance, j'ai eu qu'une seule attaque. En une fois, donc 12 bêtes en une nuit, c'est plus que ce que je ne perds en une seule saison. Donc c'est de la perte brute, c'est assez difficile à vivre et c'est d'autant plus difficile à vivre que le loup est complètement imprévisible. On a du mal à s'en prémunir malgré les patous, les filets, la surveillance, etc. C'est ce qui fait le principal du problème. Ce serait prévisible, on le gérerait mieux, mais ça ne l'est pas.
Est-ce que vous souhaitez l'éradication à nouveau du loup ou est-ce que vous pensez que c'est quand même, malgré tout, utile de le protéger, de le laisser réinvestir ces zones ?
En fait, la question est vraiment très très complexe parce que derrière la protection du loup, il y a un enjeu écologique. Et ça vient contre notre profession qui a aussi des enjeux écologiques d'entretien du pâturage, voire de remise en état de certains pâturages. Il faut savoir qu'il y a la moitié des alpages dans le massif des Alpes qui sont couverts par des mesures agro-environnementales ou qui font l'objet de suivi écologique, du moins. Et on nous fait des préconisations de pâturage. Donc ça, c'est les ingénieurs, les scientifiques des services pastoraux qui viennent étudier les petites fleurs, la faune, la végétation, pour nous dire tu vas pâturer de telle date à telle date pour préserver la sauterelle trucmuche, le tétralyre, telle plante, etc. Donc on est déjà des acteurs écologiques en plus de faire de l'élevage. Et la prédation, ça vient contrarier nos pratiques. Donc moi, ce qui me questionne, c'est que ces deux choix écologiques qui sont parfois complètement contradictoires. Et il y a un moment, il faut faire un choix. Donc,
Vous êtes peut-être demandeuse d'un débat plus nourri et plus approfondi sur le sujet, alors.
Moi, je trouve que ce qui est important, dans un premier temps, c'est de faire mieux connaître le métier de berger, puisque souvent, on nous dit « vous avez qu'à protéger vos bêtes, vous avez qu'à mettre des patous ». Il faut savoir que notre métier, déjà sans le loup, est très difficile et très exigeant, et que la prédation, ça vient bousiller notre travail. On a des journées très longues, jusqu'à 15 heures, voire plus, dans des conditions très difficiles. Donc déjà, si les gens comprennent que pour nous, c'est pas évident, d'après moi, ça devrait un petit peu pacifier le débat qui est excessif et surtout qui est déconnecté de la science, qui est souvent beaucoup trop émotionnel. J'ai peur, même si j'ai une âme un peu écolo, que le loup ne soit qu'un symbole et pas une priorité scientifique pour sauver la planète. Et on ne pourra pas tout sauver, il faut faire des choix. Voilà, je tiens juste à rappeler que l'élevage, c'est quand même la production de nourriture pour les humains. Et en alpage, c'est de l'élevage extensif. On fait ça, comme je vous le disais, avec des mesures agro-environnementales en préservant l'environnement. On est suivi, contrôlé, etc. Il y a un respect du bien-être animal. C'est un des meilleurs modes d'élevage avec le bio. Et je pense que c'est pas le premier qui devrait disparaître, du coup. Donc la question est très compliquée. Moi, je veux pas répondre à oui ou non le loup. Mais grosso modo, je dirais que politiquement, c'est très mal géré.
Votre élevage, c'est de la brebis à viande.
Hein, c'est ça.
Donc, quand vous dites soucieux du bien-être animal, ça va jusqu'à l'abattage ?
Alors, moi, je ne peux pas m'en occuper jusqu'à l'abattage, en fait. Hein.
D'accord.
Je suis salariée, donc je m'occupe des bêtes pendant l'été. Et quand c'est la démontagnée, les éleveurs récupèrent leurs bêtes. Si les agneaux sont prêts à être abattus, c'est eux qui trient. C'est des transporteurs qui amènent à l'abattoir, c'est le personnel de l'abattage qui abat, donc tout a été divisé. Moi je m'occupe du bien-être animal
donc
dans la mesure
où je
le,
comme on l'a vu aussi sur le contrôle des abattoirs et de faire attention. Donc c'est pas
oui.
Vous qui devez les contrôler bien sûr, hein, on est
non,
d'accord
non.
Mais de faire attention à ce qu'elles soient abattues dans des conditions suffisamment respectueuses.
Alors ça, moi, j'ai aucun impact là-dessus, sauf en tant que citoyenne, en militant.
Est-ce que c'est des choses, on va parler du coup de la formation, puisqu'on est ici au festival des métiers de la montagne. Berger et bergère fait partie de ces métiers. Est-ce que ces aspects qu'on vient d'évoquer font partie des formations ? Et est-ce que vous pouvez nous parler de quelles formations ?
Je connais 3 écoles en France qui peuvent former au métier de berger. Il y en a une à la Motte-Servolex, à côté de Chambéry, qui forme berger, vacher, d'alpage. Donc c'est pas que brebis, c'est aussi vache et chèvre. Il y a une autre école à Salon de Provence qui forme surtout sur l'élevage de brebis et pas uniquement berger d'alpage, mais aussi berger en croc en Provence, où les bêtes restent l'hiver. Et il y a encore une autre école dans les Pyrénées. Ceci dit, c'est un métier de terrain. On n'apprend pas tout en salle de classe. Donc même si on fait l'école, on va en apprendre beaucoup, notamment sur le comportement animal, qui est très lié au bien-être animal. On l'apprendra en pratiquant. Et de préférence avec quelqu'un qui s'y connaît, puis qui peut nous décoder un petit peu le langage des animaux. On peut apprendre sur le tas, dans la mesure où on trouve soit un berger, soit un éleveur qui veut bien nous prendre le temps de nous apprendre pourquoi on met les bêtes sur tel pâturage le matin, l'après-midi, quand il fait beau, quand il fait froid, comment gérer l'herbe, puisque il y a quelque chose qui est assez important à dire. Dans le métier de berger, on a 2 missions principales, c'est de gérer l'herbe, autant d'une part pour que les brebis mangent correctement tous les jours, mais qu'elles puissent manger correctement tous les jours, toute la saison, et de sorte que le pâturage ne soit pas abîmé, c'est-à-dire ni sous-pâturé, ni sur-pâturé, de sorte qu'il repousse correctement les années suivantes. Donc la gestion de l'herbe, c'est sur 3 pas de temps différents, la journée, la saison et les années qui suivent. Et la deuxième grande mission du berger, c'est de faire les soins, donc là c'est de la veille sanitaire sur les bêtes, et d'intervenir quand il y a besoin. Donc ça s'apprend beaucoup sur le tas, même si on a de la théorie, qu'on connaît le nom de la bactérie. Concrètement, s'organiser tout seul pour attraper les bêtes et les soigner et éviter une propagation d'épidémie, faut quand même être très autonome, organisé. Et c'est souvent en se faisant avoir qu'on apprend par la suite comment travailler correctement.
Justement, quels sont les types de soins, quels sont les remèdes que vous leur apportez ?
Alors le plus souvent, ce qu'on a en montagne, bon, il faut savoir qu'on monte les plus belles bêtes en alpage. Hein, on ne va pas mettre des bêtes malades qui ne vont pas suivre. C'est quand même des conditions un petit peu difficiles aussi
elles
pour elles.
Elles doivent être sportives aussi, les bêtes.
Ouais. Et ce qu'on a le plus souvent, c'est des problèmes de boiterie. Les bêtes vont être sensibles des pieds, elles marchent tout le temps. Il y a des zones épineuses, des zones rocailleuses, de l'humidité, de la chaleur, etc. La première chose qu'on craint, c'est ce qu'on appelle le piétin. C'est une bactérie qui va petit à petit ronger le pied de l'intérieur et qui est incroyablement contagieuse. Ça va à une vitesse grand V. Pour soigner les bêtes, il faut les attraper une à une et leur soigner les pieds un à un. Donc un troupeau de 1000 bêtes, ça fait 4000 pieds. Personnellement, quand je fais des soins, je soigne 20 à 25 brebis en 4 heures. Vous faites le calcul. Une brebis, ça pèse entre 45 et 75 kilos selon la race et l'état de gestation. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont plus légères que moi et d'autres beaucoup plus lourdes. Ça devient vite très, très physique. Donc, il faut bien anticiper. Donc, surtout des problèmes de boiterie. Il y a aussi l'ectima podale qui est très contagieux, mais moins grave. Ces dernières années, on a vu apparaître des asticots qui vont se mettre sur les plaies et manger la bête vivante si on n'intervient pas. Donc il faut avoir le cœur bien accroché hein, aussi, c'est pas juste un métier de poète. Et ça, c'est les anciens, entre guillemets, hein, les gens qui ont une génération ou deux de plus que moi, me disaient qu'ils n'avaient pas ça par le passé. Je suppose que c'est lié au changement climatique, au réchauffement. Il y a plus de mouches en altitude et donc des pathologies supplémentaires. Il y a quelques mammites, donc des infections de la mamelle, des naissances, des avortements. Il faut...
C'est quoi ? C'est de l'antibiotique, des désinfectants ?
Alors, j'utilise généralement un antibiotique large spectre pour les infections du pied quand il y a besoin, parce que certaines maladies, il n'y a pas besoin. Un désinfectant, teinture d'iode ou oxygéné. Et puis, j'ai un autre antibiotique large spectre pour tout ce qui est problème génito-urinaire dans le cas d'avortement. Par exemple, il y a 2 ans, il y a eu une épidémie de salmonellose, donc ça crée beaucoup d'avortements et c'est transmissible à tout le troupeau. Donc là, je me dois de prévenir les éleveurs, de repérer que c'est pas normal d'avoir 7 avortements, même sur 1000 brebis en une semaine. Qu'est-ce qu'on fait ? On attrape toutes les bêtes, on les enferme, on les vaccine, on leur fait une piqûre préventive, parce que comme elles avortent, elles perdent l'agneau, donc c'est des bêtes qui n'auront pas produit dans l'année. Et puis ça les fatigue, etc. Cette année, il y a eu des problèmes de fièvre charbonneuse, j'en ai pas eu sur mon alpage, mais on peut être amené à prévenir les services vétérinaires quand c'est une maladie particulièrement transmissible, dangereuse potentiellement pour l'homme, etc. Donc il y a quand même une bonne dose de responsabilité parce qu'on travaille seul et puis parce que c'est du sérieux quand même.
Vous parliez de la poésie du métier, on va y venir, mais est-ce que vous pouvez nous parler de vos conditions de vie, de vos conditions d'existence sociale également, éventuellement ?
C'est très variable en fait selon les alpages, parce qu'il y a des alpages beaucoup plus vastes que d'autres, des troupeaux beaucoup plus grands. Donc dans les Alpes françaises, la moyenne c'est d'un alpage brebis, c'est à peu près 500 hectares et 1000 bêtes, c'est ce que j'ai moi cette année. Mais il y a d'autres alpages beaucoup plus grands et des troupeaux beaucoup plus grands, donc ils ne laissent pas beaucoup le temps au loisir. Et puis on a du temps pour le loisir quand on a bien fait notre travail. Et bien fait notre travail, c'est que le signe, c'est que les bêtes sont calmes et qu'elles mangent en fait. Mais pour en arriver là, généralement, c'est beaucoup de marche. En fait, il y a des périodes souvent dans l'été. On parle de quartier, nous, de gestion de l'herbe. Premier quartier, deuxième quartier, quartier d'août, où les bêtes sont sur les pâturages les plus hauts et généralement fermées par des frontières naturelles, souvent. On les laisse s'étaler. En général, on a un peu plus de temps. À l'automne, les journées sont plus courtes aussi, donc on se couche un peu plus tôt, on se lève un peu plus tard. Et puis il y a la chaume aussi. Les bêtes, elles mangent de bonne heure le matin. Et vers 10-11 heures, quand il fait très chaud, elles chaument, elles siestent, elles ruminent. Jusque vers 4 heures de l'après-midi, 6 heures si vraiment c'est canicule. Donc là, on a un peu de temps pour nous. Mais du temps pour nous, ça va être pour faire la lessive, descendre aux courses, etc. Parce que le mode de vie, c'est quand même rudimentaire. En ce qui me concerne, j'ai 2 cabanes, donc par secteur de montagne. J'ai la chance d'avoir un héliportage à chaque cabane où on me monte tout le matériel pour les brebis, le sel. Elles consomment du sel parce qu'elles ne le trouvent pas à l'état naturel. Le bois de chauffage, les filets, etc. Toutes mes affaires, toute ma nourriture non périssable, mes habits, etc. J'ai 2 cabanes bien équipées puisqu'il y a l'eau à la cabane, ce qui n'est pas le cas partout. J'ai un chauffe-eau, donc l'eau chaude, la douche, les toilettes et un poêle à bois. Et il y a encore pas mal de cabanes où il n'y a même pas l'eau potable ni le chauffage. Donc c'est rude en altitude à 2000 mètres, c'est quand même pas facile. Donc voilà, niveau mode de vie.
On vous a installé dans le ici au manège, au Festival international des métiers de la montagne, proche des syndicats.
Oui, on nous a mis en face des syndicats.
Est-ce que justement vous êtes allé les consulter ? Parce que je crois que vous êtes en CDD toujours, c'est des contrats assez précaires. Vous en êtes où sur ces conditions-là ? Et si je peux vous demander combien vous gagnez, ou en tout cas si vos conditions matérielles d'existence vous paraissent suffisantes ?
Alors une cabane, si elle est bien équipée, c'est déjà pas mal. Comme les miennes, c'est bien. On aimerait bien que toutes les cabanes soient équipées ainsi. Les salaires, ils sont différents d'un département à l'autre parce que les conventions collectives sont départementales. Donc dans le département des Hautes-Alpes, il paraît qu'on a le meilleur salaire berger de France. Donc c'est sur une base SMIC 35 heures. Moi par exemple je suis à l'échelon 2 niveau 4, c'est au maximum, il y a une histoire d'échelon et de niveau, et je suis au maximum de la convention collective. Il y a une histoire donc d'expérience et une histoire de compétences ou de diplômes, je ne sais plus. Et puis on a de l'ancienneté si on revient chaque année sur le même alpage pour le même éleveur, de l'ordre de 1% du brut. Grosso modo, moi j'étais sur une base brute de 10,76 € de l'heure. Donc une base 35 heures, plus des heures supplémentaires, 8 heures à 25%, 1 heure à 50, 1 heure à 100%, je ne sais plus, quelque chose comme ça, sur la semaine. Donc ça fait du 2 000 € net par mois, sans les dimanches, quoi. Du coup, donc les dimanches, soit on les récupère, soit on se les fait payer, on s'arrange, mais disons que le salaire effectif... vraiment sur la semaine, il est de 2 000 € net. Ramené aux heures travaillées, ça fait du 5 € de l'heure en fait. Je me permets de dire par rapport au contrat de travail que je fais partie d'une association de bergères et bergers des Alpes du Sud et de Provence qui existe depuis 40 ans. On fait partie avec d'autres associations de bergers d'une fédération d'associations de bergers et on est présents tous ensemble au FIM. Et donc dans notre association... parmi d'autres objectifs, on essaye de défendre un peu le droit du travail. On s'était rapproché de syndicats pour faire avancer la convention collective dans le 04, les Alpes de Haute-Provence. C'est pas évident, c'est du travail de longue haleine. Et effectivement, on a des contrats de travail à durée déterminée, saisonniers. On n'a pas forcément les mêmes droits. Par exemple, on n'a pas la prime de précarité de 10% sur le brut qu'un CDD normal. On n'a pas forcément les mêmes droits à la formation, etc. Donc ça reste des situations précaires. Et les bergers, d'un bout à l'autre de l'année, enchaînent des CDD. Donc ils font l'estive quelque part, ils vont faire les périodes automne et printemps autre part, la période hivernale autre part. Donc ça nous oblige un petit peu à être nomades si on veut rester dans le milieu berger toute l'année. Ou alors on essaye de trouver d'autres activités. Et entre deux contrats, on bénéficie du chômage. Il n'y aurait pas le chômage, on ne pourrait pas se permettre d'attendre entre deux CDD. Donc c'est quand même compliqué. Et c'est un métier par définition saisonnier. Donc c'est difficile ouais, de trouver une stabilité sur l'année quand même.
Voilà. Quelles seraient vos attentes justement ? Bon, vous avez parlé des conditions matérielles, des cabanes, etc. Donc pour vous, ça va, mais vous vous battez aussi pour vos collègues. Est-ce qu'il y a amélioré les conventions collectives ? Qu'est-ce qu'il y a dans l'évolution du métier lui-même, peut-être, qui vous permettrait de le faire dans de meilleures conditions ?
Au sein de l'association, on essaye déjà de faire du lien entre les bergers, puisqu'on est souvent solitaire ou à deux. Et on ne se rencontre pas forcément, puisqu'on a 1000 ou 2000 hectares pour soi tout seul. On ne rencontre pas forcément les voisins. Donc dans l'association, on essaye déjà de se faire rencontrer les bergers pour échanger les connaissances, les compétences, les astuces, etc. On essaye aussi de mettre en place des petites journées de formation sur l'homéopathie vétérinaire, les animaux de bât, le dressage du chien de conduite, etc. On travaille aussi sur faire connaître le métier de berger, donc proposer dans des écoles, dans des festivals, de parler de notre métier. Et puis on travaille aussi les partenariats, puisque nous, en tant qu'association loi 1901, on n'a pas de moyens, on n'a pas vraiment le temps. Et les bergers individuellement, on a encore moins de moyens et de temps. Donc on travaille les partenariats avec les services techniques pastoraux, la MSA, les syndicats, etc. pour relayer un peu nos besoins. Donc sur les conditions de travail, sur l'aménagement des cabanes, sur la gestion écologique des alpages, sur se faire connaître au sens large.
Une dernière question pour conclure. Autour de vos patrons, parce qu'on parle beaucoup de vous, vous êtes salarié, mais vous êtes salarié de qui? Qui sont les propriétaires? Qu'est-ce qu'ils font pendant que vous, vous gardez leurs bêtes en alpage? Quelle est leur activité plus généralement?
On est salarié des éleveurs, donc ils sont exploitants agricoles, c'est-à-dire qu'eux, ils sont propriétaires ou au minimum locataires d'une ferme. Ils sont toujours propriétaires des bêtes, éventuellement des zones pastorales d'intersaison, printemps, automne. Et quand ils nous mettent les bêtes en alpage l'été, eux, ils font les foins, en fait, des fois jusque début août.
D'accord. Et ce qui leur permettra de nourrir ensuite les bêtes à l'étable pendant l'hiver.
L'hiver. Ouais. En général, au mois d'août, ils ont un petit peu une pause. Une fois qu'ils ont fini les foins, encore que ça dépend ce qu'ils ont à faucher, une période de 10-15 jours où il y a moins de travail. Et puis après, ils rattaquent les semis, s'ils font de la luzerne, un petit peu de céréales, etc. La remise en état des clôtures. En ce qui me concerne, là, dans les Hautes-Alpes, on a en alpage des brebis gestantes. Donc, elles commencent à faire l'agneau en début d'automne. Donc, dès le début de l'automne, ils commencent à descendre les brebis prêtes, qu'on appelle les empoussées, pour faire agneler en bas, pour surveiller l'agneau, que tout se passe bien. Donc, en fait, ils ont très vite de nouveau du travail, même si on est encore en montagne. Dans d'autres secteurs, je crois qu'en Savoie, ils font agneler les bêtes au printemps. Les agneaux montent avec les mères en alpage. Et ils redescendent les agneaux à l'automne. Bon, il y a différents systèmes de production, mais les éleveurs, bon, ils ont aussi beaucoup de paperasse à faire. Et puis, ils sont quand même présents en alpage si on a un coup dur, hein, que ce soit pour faire des soins, passer au pédiluve.
D'accord. Ils ont donc du travail. On est d'accord que l'amélioration de vos conditions de vie à vous, c'est pas contre ces propriétaires-là.
Non, c'est pas contre, c'est l'évolution d'un métier. Non, c'est pas en opposition à ce que font les éleveurs. De toute façon, on travaille l'un pour l'autre. Plus l'éleveur travaille bien, plus ce sera facile pour le berger et réciproquement. Et c'est quand même une forme de partenariat et de confiance.
La transhumance, c'est plus qu'un du folklore?
Alors la transhumance à pied est quasiment du folklore. Il y a encore quelques petites transhumances à pied. Ceci dit, la transhumance des troupeaux de Provence vers les Alpes du Nord, c'est encore assez phénoménal. Je crois que c'est 600 000 brebis qui montent en alpage l'été par camion, du coup, et qui redescendent à l'automne. Et à l'inverse, des brebis dont les propriétaires sont dans les Alpes, qui descendent l'hiver en Provence, de l'ordre de 100 000. Donc les animaux bougent encore beaucoup, mais plus à pied, par camion. Parce que maintenant, il y a les voies ferrées, les autoroutes, les zones industrielles, etc. Donc de toute façon, il n'y a plus les pâturages sur la route pour pouvoir faire ça, en fait. C'est plus possible.
Lucie Maréchal, bergère en Champsaur dans les Hautes-Alpes. Merci d'être venue témoigner à nos micros de ce que vous vivez comme bergère, de votre expérience. Merci beaucoup.
Merci.